Chapitre 9. Marichette s'était imaginé qu'après avoir écrit sa lettre et l'avoir mise à la poste, elle éprouverait une certaine tranquillité d'esprit et n'irait plus d'une idée à une autre follement sans pouvoir s'arrêter à aucune. Mais il n'en fut rien. Que ferait-elle si, malgré ce qu'elle lui avait dit, il cherchait à la revoir? S'il lui obéissait, que ne souffrirait-elle pas? Ces deux questions se heurtaient dans sa tête pendant que sa cousine, qui avait repris son interrogatoire de la veille, continuait son inventaire des affaires de Simon Belloc. Pour échapper à cet interrogatoire, Marichette avait demandé à sa cousine de la mettre au travail, mais celle-ci n'avait pas accepté cette proposition. « Plus tard, nous verrons. Nous avons le temps. Tu ne dois pas avoir la tête au travail ?»« Je m'appliquerai. » C'est vrai qu'elle n'avait pas la tête au travail, ni à ce qui se passait autour d'elle, d'ailleurs. C'était à Saint-Maclou qu'elle était, c'était à Paulin qu'elle pensait. Qu'avait-il éprouvé en recevant sa lettre? Qu'allait-il faire? Assise auprès de sa cousine dans le bureau, dont la porte, comme toujours, était grande ouverte sur la rue, elle se demandait si tout à coup elle n'allait pas le voir apparaître, et ses yeux, qui ne suivaient pas sa pensée, couraient au moins aussi loin qu'ils le pouvaient, cherchant au milieu des passants qui, de temps en temps, se montraient dans la rue. N'était-ce pas lui? Son cœur s'arrêtait, elle se sentait défaillante. Elle ne se remettait qu'en voyant qu'elle s'était trompée, ou bien lorsqu'elle se disait qu'il ne pouvait pas encore avoir sa lettre. Mais aussitôt qu'il aurait reçu et qu'il aurait vu le timbre de Criquefleur, n'arriverait-il pas? Sans doute, elle l'avait prié, elle l'avait supplié, aussi ardemment qu'elle avait pu, de ne pas chercher à la revoir. Mais écouterait-il cette prière? Pouvait-il résister à la tentation de savoir ce qu'elle ne lui avait pas dit? Elle calculait le temps qu'il fallait pour que sa lettre, mise à la poste, arrivât aux mains de Paulin, et elle trouvait que, dans la soirée ou le lendemain matin, elle pouvait le voir surgir. La journée s'écoula dans cette angoisse, et quand le soir tomba, il fut évident qu'il ne viendrait pas. C'était un soulagement. Mais, d'autre part, c'était en même temps un désespoir morne. C'était donc fini, il lui avait obéi, elle ne le reverrait plus. Combien de fois dans la nuit s'éveilla-t-elle en sursaut, ayant le sentiment vague qu'elle avait parlé? Ce qu'elle avait dit, le nom qu'elle avait prononcé, les mots qu'elle avait murmurés, elle les retrouvait sur ses lèvres. « Paulin, je t'aime !» Le lendemain, il fallut reprendre place dans le bureau et le tourment de l'attente reprit aussi. « Qu'as-tu donc ?» lui demandait souvent Célanie. « Rien. Tu es distraite. Préoccupée ? Oui, c'est vrai. Pardonnez-moi. Ce n'est pas un reproche. Je voudrais te soulager. Je vous remercie. » Mais que pouvait-on lui dire? Que pouvait-on faire pour son soulagement? Elle ne quittait pas la rue des yeux et, tout en écoutant sa cousine, tout en lui répondant, elle regardait au loin. Tout à coup, elle se leva brusquement. « Qu'as-tu donc ?» Elle crut s'être trompée, comme déjà cela lui était arrivé 10 fois. C'était son cœur qui avait vu Paulin, ce n'était pas ses yeux. Mais, debout, elle voyait mieux et plus loin. C'était lui, c'était bien lui qui arrivait à grands pas. « Monsieur Moreau !» s'écria-t-elle. « Eh bien, qu'est-ce que cela fait ? Il ne faut pas qu'il me voie. Crois-tu donc que je vais te remettre entre ses mains pour qu'il te reconduise chez le corsaire ? Il ne sait pas ce qu'il attend. » Mais Marichette n'entendait rien, n'écoutait rien. Tout en parlant, elle s'était jetée sur la porte qui communiquait avec la salle à manger. Violemment, elle l'avait ouverte et plus violemment encore, refermée. « Dites que je ne suis pas ici » cria-t-elle. Et Célanie l'entendit monter 4 à 4 l'escalier dont les marches en bois craquaient sous ses pas précipités. « La peur la rend donc folle ?» se dit Célanie. Pour elle, ce n'était point avec peur qu'elle voyait arriver le commis du corsaire, c'était avec curiosité et avec un certain plaisir. Qu'avait-il mission de proposer? Cela était intéressant. Paulin venait d'entrer dans le bureau et il avait salué respectueusement, mais avec embarras. Célanie, s'amusant de cet embarras, le laissait devant elle sans rien dire, attendant. Enfin, il se décida. « Monsieur Sylvain Belloc est-il ici ? » demanda-t-il d'une voix qui tremblait. « Non, monsieur. »« Ah !» Il parut vivement impressionné par cette réponse et l'émotion qui se montrait en lui, son trouble, sa pâleur, le tremblement de sa voix, empêchèrent Célanie de persister dans l'attente comme elle en avait eu tout d'abord l'intention. Que se passait-il donc de particulièrement grave que le commis du corsaire était dans un pareil état ? Il les menait assez rudement, ces commis, pour qu'ils ne prissent point intérêt à ce qui le touchait, d'une façon aussi dramatique. « Ce que vous avez à dire à mon mari est-il donc si urgent ? » demanda-t-elle. « Oui, madame, très urgent et d'une importance capitale. » Il n'était plus simplement question de s'amuser, il fallait savoir. Elle se départit de sa raideur et de sa dignité. « Est-ce à mon mari seul que vous pouvez confier cette chose d'une importance capitale ? » demanda-t-elle d'un ton encourageant. Il hésita un moment. « Si vous voulez bien m'entendre, » dit-il enfin. « Volontiers. » Et comme il regardait autour de lui, elle crut qu'il cherchait si, dans ce bureau ouvert à tout le monde, il n'y avait pas des oreilles indiscrètes. « Voulez-vous passer dans la salle ? » dit-elle. « Nous serons mieux pour causer. » « Avec plaisir. » Elle le précéda, et quand il fut entré, elle referma la porte avec soin. « Je vous écoute, » dit-elle en lui montrant une chaise et en s'asseyant elle-même. « Mademoiselle Marichette, » dit-il, et il attendit. « Eh bien ?» Cette interrogation, quand il comptait évidemment sur une réponse, parut le jeter dans un trouble profond. « Je veux dire... elle est ici ?» Célanie l'examina comme si elle avait affaire à un fou. N'était-il pas extraordinaire que l'envoyé du corsaire lui demandât si Marichette était chez elle ? « Mais sans doute, » répondit-elle. « Ah, madame !» Et autant Paulin paraissait désespéré quelques secondes auparavant, autant il se montra heureux. Cela devenait bizarre, vraiment, et pour une femme soupçonneuse telle que Célanie, tout à fait caractéristique. Elle examina Paulin, puis tout de suite, elle l'interrogea, de façon à savoir à quoi s'en tenir. « Que veut M. Belloc ? » demanda-t-elle. « Ce n'est pas au nom de M. Belloc que je me présente. »« Ah ? » ?»« C'est en mon nom. » Il s'arrêta et parut de plus en plus gêné. Impatientée, Célanie lui vint en aide. « C'est une raison pour que vous vous expliquiez sans contrainte, » dit-elle. « Je pouvais me tenir sur mes gardes avec l'envoyé de M. Belloc, mais il n'en est pas de même avec vous, M. Moreau. » Ce n'était pas trop de cet encouragement pour desserrer les lèvres de Paulin. « C'est de Mademoiselle Marichette que je désire vous demander des nouvelles, » dit-il. « Ah, vraiment ? Eh bien, je vous remercie, je n'ai que de bonnes nouvelles à vous donner. » « Mon Dieu, madame, je comprends que vous trouviez ma démarche insolite et peu convenable. »« Mais pas du tout, au contraire, » répliqua Célanie, qui, désespérant de le voir s'expliquer franchement, voulait le pousser. « En apprenant que mademoiselle Marichette avait quitté Saint-Maclou, j'ai éprouvé une inquiétude. » Il retint le mot trop fort qui lui venait aux lèvres. Une inquiétude très vive, et comme elle m'avait parlé des propositions que vous lui aviez faites il y a quelque temps, quand vous êtes venu à l'église. « Ah, elle vous a dit cela ?»« Oui, madame. Alors j'ai pensé que, quittant Saint-Maclou, elle avait accepté vos propositions et je suis venu pour la voir. C'est l'autorisation d'avoir une entrevue avec elle que j'ai l'honneur de vous demander, madame. » « Mais, monsieur, c'est impossible. Une jeune fille ne reçoit pas ainsi un jeune homme. Vous comprenez ?» Il se fit un moment de silence et Célanie, qui examinait Paulin, le vit sous l'appréhension de la perplexité. « J'aime mademoiselle Marichette, » dit-il. « Elle m'a promis d'être ma femme. Cela vous explique ma demande. »